Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, en direct de Toronto. Mon nom est Paul Landriot et je suis avec mon collègue...
Olivier Bouchard, des fiches du cinéma.
Je dis mon collègue, mais j'aimerais dire peut-être mon invité, là, pour pas choquer Rémi et Pascal, qui sont pas là cette semaine. En fait, c'est ça, je vais expliquer le contexte. Ça fait environ un mois qu'on n'a pas fait de podcast Point de vue. La raison, c'est parce qu'on est en vacances, si je peux dire, entre gros guillemets. Parce que de mon côté, j'ai pas arrêté de travailler, entre autres, pour le Festival des films du monde. Et Rémi et Pascal, ils sont à fond sur la web-série Les Jaunes. Si vous nous suivez un peu sur Facebook ou sur Twitter, vous avez sûrement entendu parler de ça déjà, ce projet-là. Donc, ils sont en gros tournage intensif et puis on n'a plus vraiment le temps de faire des podcasts ces semaines-ci. Donc, on essaie d'entretenir un petit peu la page Facebook, la page Twitter, de mettre des nouvelles un petit peu. On ne fera pas de segment actualité aujourd'hui. Donc, cette semaine, c'est ça, c'est avec moi et Olivier Bouchard qui vont faire le podcast. On est à Toronto, c'est la journée 2 du festival. On vient d'arriver hier au milieu de la nuit, finalement, à 6h du matin, on était au centre-ville. On venait de passer la nuit dans la bus. Dans le bus, devrais-je dire, à l'habitude de Québec, la ville. Donc, voilà, Olivier Bouchard qui écrit pour cinématrack.com et lesfichesducinema.com. Ouais. On va vous parler finalement des films qu'on a vus à Toronto. Et puis pour les sorties cinéma, sorties DVD, on le fera pas non plus cette semaine comme on fait d'habitude avec Pascal et Rémi. Donc on va juste vraiment vous dire ce qui se passe à Toronto, qu'est-ce qu'on a vu à Toronto, nos coups de cœur, nos coups de gueule. Et on va essayer peut-être de faire une ou deux émissions, deux autres émissions d'ici la fin du festival.
Ça va dépendre du temps qu'on a, je pense.
Ouais, c'est ça, on veut pas rien promettre, mais là on vient de commencer, donc on a quand même beaucoup d'énergie. On va voir qu'est-ce qui se passe rendu à la fin. Je sais que toi, Olivier, à chaque jour, tu viens et t'écris ton ordi pendant une couple d'heures.
Ouais, j'écris un texte pour chaque film que je vois, plus un résumé de ma journée, de ce qui s'est passé pendant la journée.
Donc voilà, moi j'étais venu au TIFF l'année passée, c'est un festival que j'adore, un des cinq meilleurs festivals, les plus gros festivals selon moi dans le monde. Toi Olivier, c'est ta première année au TIFF, c'est quoi premièrement tes impressions générales en termes du festival, sans compter la programmation, là, juste vraiment l'organisation, l'ambiance, les gens?
En fait, moi, le seul autre festival que j'ai fait en tant que journaliste, ça a été Cannes, puis c'est beaucoup plus strict à Cannes, on se fait vérifier à chaque entrée, faut toujours faire la queue et tout ça, tandis qu'ici, c'est beaucoup plus libre, en fait, on a moins l'impression d'être tout le temps surveillé, on peut entrer partout sans se faire regarder d'un air bizarre et compagnie.
Fait que tu veux dire que t'as copié plein de films puis t'as enregistré plein de films?
Ouais, c'est à peu près ça, en fait, mais non, je pense qu'il y a du monde qui vérifie, sauf qu'on les voit moins.
Ouais, on est loin quand même du côté aussi glamour que Cannes. C'est dur de faire aussi big que Cannes.
Ouais, j'ai pas vu de vedette encore non plus.
Ah, moi j'ai vu, bon, c'est pas nécessairement une vedette, mais le petit gars, moi, tantôt, était bien content de voir Sion Sono, réalisateur du film The Land of Hope, qui est peut-être plus connu pour le film Suicide Club.
Moi j'ai vu aucun réalisateur. Je suis vraiment triste.
En fait. Bon, alors, faut dire que nous, on va surtout aux projections de presse, donc c'est peut-être, c'est pas là qu'il y a les vedettes, c'est pas là qu'il y a les tapis rouges. Il y a aussi des conférences de presse, mais moi, je suis pas allé à aucune, toi non plus, je pense.
Non, j'ai pas fait aucune conférence de presse.
Donc, en tout cas, s'il y en a que ça intéresse, je sais que les conférences de presse, on peut les suivre sur le net, en fait, de chez soi. Donc, au tif.net/live. Donc, vous pouvez les voir en streaming live, les conférences de presse. Donc, ça peut être intéressant si un film que vous attendez en particulier... Il y a des gros films au festival. On pense à The Master, on pense à On the Road, Looper, quoi d'autre? Anna Karenina.
Je sais pas, il y en a trop, là, mais je sais pas.
Donc, on va commencer. On va commencer tranquillement, peut-être. Parle-moi donc d'un navet que tu as vu là, à date, là, un film que tu n'as pas aimé.
J'ai pas vraiment vu de navet complet, mais j'ai vu Lore ce matin qui était un ennui total. En fait, c'était relativement bien réalisé, sauf que le scénario était tellement fouillis, puis c'était tellement juste voir du monde se faire rouler dans la boue tout le long. Je veux dire que c'est une histoire super tragique, super sérieuse, super assumée, tragique, mais qui amène à rien à son propos. L'histoire est juste ça pour qu'on voit souffrir ses personnages. Fait que j'ai trouvé ça super ennuyant pendant 1h50, 2h. Je pense que ça a été celui que j'ai eu le plus de difficultés à rester éveillé tout le long, pour l'instant.
Okay. Et puis, Lore, ça vient de quel pays? C'est quel réalisateur?
C'est allemand-australien. Je suis pas sûr du réalisateur, je suis désolé.
Il n'y a pas de problème, on pardonne.
On pardonne le manque de connaissances.
Ouais, faut dire qu'on rush d'un screening à l'autre. C'est assez fou l'ambiance. C'est vraiment le fun, en fait. Pour moi, les festivals, que ce soit Fantasia, que ce soit FNC, que ce soit TIFF, je veux dire, c'est le fun d'arriver dans un festival, puis pour une fois que là, je travaille pas, puis je profite des films, c'est très agréable. Moi non plus, je devrais dire, j'ai pas vraiment vu de navet, en fait. Le niveau global des films est très, très bien. J'ai pas encore non plus vu de chef-d'œuvre en tant que tel. J'ai pas vraiment vu de films qui me jetaient à terre. Mais ce que j'ai vu qui se rapproche le plus d'un film un peu raté ou moins important, je dirais, ça serait Dangerous Liaisons, une adaptation chinoise cette fois. Le réalisateur, je pense, s'appelle Jin Hu Hor. J'ai mis le nom sur mon compte Twitter, mais là, je ne l'ai plus avec moi pour vérifier. Donc, je m'excuse si j'ai fait une erreur. Et bon, c'est une adaptation des Liaisons dangereuses, une énième adaptation. En gros, c'est des personnages bourgeois qui font un pari. Est-ce que l'homme macho et playboy peut coucher avec la belle femme qui est cette fois-ci jouée par Zizi Yang, une actrice chinoise qui est vraiment magnifique et très bonne actrice. C'est pas son rôle le plus important ni le plus exigeant. Zizi Yang, qui est connue entre autres pour avoir joué dans Tigre et Dragon, dans Héros, dans 2046, une des actrices chinoises les plus connues. Et bon, c'est une adaptation qui est très léchée, une adaptation qui se passe en Chine, vous l'aurez compris, avec un casting très impressionnant. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma asiatique, entre autres, c'est très drôle parce que comme l'acteur principal mâle, l'homme, il est coréen en fait, et puis qui joue dans cette adaptation chinoise. Il y a également une fille de Hong Kong, mais bon, ça arrive souvent un peu en Asie, les espèces de coproductions, les films vraiment qui visent tout le marché asiatique en mettant un peu des stars de chaque pays. Mais outre l'énorme production derrière, l'énorme design, les sets, les costumes, c'est très beau. La caméra, c'est très bien aussi, mais c'est très creux comme film seulement. Je veux dire, c'est rien qu'on n'a pas vu. Et puis bon, c'est un film qui va choquer personne. T'sais, en gros, les Liaisons dangereuses, c'est quasiment comme c'est un film vraiment sexuel. Finalement, c'est un film d'envie, de désir, de mensonge, d'attraction, mais cette version-là est tellement édulcorée et fade que c'est dur vraiment d'être émoustillé, finalement.
Je ne l'ai pas vu, personnellement. Fait que je peux pas vraiment répondre à ça, sauf que ben, tu donnes une bonne image d'un film qu'on veut pas voir, je pense.
Donc, assez parlé là, des films qu'on n'a pas aimés, mais on va rentrer dans le cœur du sujet avec nos coups de cœur. Je vais te laisser commencer, Olivier. Je sais pas si tu peux nous parler d'un film que tu as le goût de parler.
Ben moi, la grosse surprise s'est faite la première journée, ça a été Anna Karenina, que j'attendais beaucoup parce que j'ai bien aimé les deux premiers films de Joe Wright. Ces deux derniers m'avaient un peu déçu, comme tout le monde, je pense. Et j'aime beaucoup l'œuvre de Tolstoy aussi, donc c'est un film que j'attendais beaucoup. Première chose, en tant qu'adaptation du livre de Tolstoy, ça m'a vraiment déçu parce que je pense qu'il en change le ton complètement. À ce point qu'on reconnaît que les événements qui sont très... c'est très fidèle au roman pour les événements. Sauf que le ton est complètement changé. C'est vraiment rendu une grande œuvre romantique alors que le livre était beaucoup plus froid. Par contre, j'ai trouvé que c'est un excellent, excellent film. Si ce n'est pas un grand film, je vais y penser et y revenir sur le fait de est-ce que c'est un grand film ou non. Je trouve que c'est un excellent film dans le sens que c'est extrêmement bien réalisé. Ça ressemble à pas grand-chose, sauf peut-être ça pourrait faire penser au film de Michael Powell et Merrick Pressburger dans son...
Rien de moins.
Rien de moins. Dans son utilisation du décor, qui est très... des décors en carton, on voit littéralement que c'est du faux, mais quand même, il réussit à aller chercher une émotion et... les plans séquences, la mise en scène est absolument incroyable, ce qui fait que ça marche malgré la réticence qu'on pourrait avoir si on est fan de Tolstoy comme moi, en fait. Et j'ai trouvé ça surprenant et incroyable, en fait.
Mais c'est un débat aussi qui est vieux comme le monde. Qu'est-ce qu'une bonne adaptation? Je veux dire, est-ce qu'on doit rester fidèle à une œuvre ou au contraire imposer sa signature? Est-ce que tu penses que ultimement Joe Wright a fait les bons choix?
Je pense qu'il a fait les bons choix par rapport à son cinéma parce que quand on regarde, c'est un film qui peut rappeler justement Pride and Prejudice et Atonement, qui étaient ses deux premiers films, du moins les deux premiers films que je connais. Il reste dans les mêmes thèmes, il reste dans le même style de réalisation, il reste dans une espèce de romantisme lyrique qui connaît bien. Donc lui, il est resté dans son œuvre et il fait le plus grand film de son œuvre à ce moment. Donc lui a fait le bon choix. Puis d'emblée, il présente, ça prend pas beaucoup de temps qu'il établisse le ton, en fait. Donc à partir de ce moment-là, on peut oublier l'œuvre de Tolstoï, même si ça peut être désagréable pour certains, et voir le film pour ce qu'il est vraiment.
Et puis, quand on pense à Joe Wright, c'est dur de... Et puis surtout, c'est l'adaptation d'époque. C'est dur de ne pas penser à son actrice fétiche, Keira Knightley. Peux-tu nous en dire plus sur cette actrice dans ce film?
Dans ce film, c'est dur à dire parce que le film est vraiment millimétro possible. Même, il y a l'actrice qui joue Kitty. C'est pas une actrice que je connais beaucoup, donc je connais pas le nom. Qui va avoir des tics nerveux souvent, et on sait, c'est très clair que le réalisateur lui dit à ce moment-là, tu vas avoir ce tic-là. Les performances sont vraiment fabriquées au même niveau que les mouvements de caméra ou les décors, les mouvements de décors, parce que les décors bougent, peuvent l'être. Donc, je pense que la seule chose qui est importante dans le choix des acteurs, c'est vraiment leur figure physique, beaucoup plus que leur performance. Alors là, Keira Knightley, c'est pas nécessairement, je pense qu'il n'y a pas la profondeur que le personnage d'Anna Karenine pourrait avoir. Physiquement, je pense qu'elle n'émane pas ça, mais même malgré tout, je pense que pour le film qu'il voulait faire, il n'y avait pas besoin de plus.
Donc, Anna Karenina, sans doute un candidat sérieux pour les prochains Oscars?
Oui, sûrement.
Ensuite, mon tour, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a impressionné? Aujourd'hui, j'ai vu un film que je sais qui n'a pas été si bien reçu que ça à Cannes. J'imagine que tu l'as vu, je pense que tu m'as dit que tu l'avais vu, The We and the I de Michel Gondry.
Non, je n'ai pas vu The We and the I.
Mais t'as entendu parler?
J'ai entendu parler et ça divisait plus qu'il y avait une opinion claire. C'était pas tout le monde disait c'est moyen, c'était j'aime beaucoup, je déteste beaucoup. En
fait. Et lesfichesducinema.com?
Lesfichesducinema.com, le problème c'est qu'il y avait beaucoup de rédacteurs qui l'avaient vu, beaucoup qui aimaient beaucoup, beaucoup qui n'aimaient pas, donc on était obligé de faire une critique entre deux.
Donc, finalement, c'est la critique de personne, des fiches cinéma.
Effectivement, c'est la critique de personne, mais c'est un peu la problématique des fiches.
Donc, ouais, The We and the I, ben, déjà, c'est un film qui ne saurait exister sans son réalisateur. C'est un peu un euphémisme. C'est un film de Michel Gondry. Et puis, encore une fois, Michel Gondry nous surprend avec cette fois-ci un film qui semble assez banal à prime abord. Mais je pense que je ne connais pas beaucoup sur la production du film. Il faudrait que je me renseigne. Mais c'est vraiment un film qui se situe entre un peu la fiction et le documentaire. En gros, comme on l'apprend dans le générique, le film est conçu avec l'appui d'un organisme en fait, qui aide pour les jeunes de milieux défavorisés du Bronx, donc à New York. Et puis, toute la troupe d'acteurs, en fait, tous les jeunes acteurs, c'est des non-acteurs en fait qui... Dans le film, utilise leur propre nom déjà, donc il n'y a pas de nom de personnage. Et j'ai l'impression qu'une grande partie du film qui s'est faite en improvisant, parce que les trucs vraiment... En gros, le pitch, c'est la dernière journée d'école d'une classe au secondaire, et puis ils prennent le bus de retour, donc le bus de ville pour retourner chez eux. Et c'est vraiment ça tout le long du film. C'est vraiment un film concept, j'appelle ça un peu comme... Clerks avait le film, tu sais, des gens qui travaillent dans un dépanneur. Mais ça, j'ai l'impression que The We and the I, ça pourrait être une espèce de film qui se ressemble un peu à ça, une espèce de petit film qui pourrait devenir culte un peu. Le film qui se passe dans un autobus. Mais, et puis c'est ça, et puis c'est un microcosme de la société américaine, les jeunes de quinzaine d'années dans le Bronx, qui sont évidemment de classe moins favorisée. Et c'est ça, vraiment, ce qui est formidable du film... C'est tout ce travail caché, en fait, qui n'est pas nécessairement de mise en scène, mais plus de mise en contexte et de placer un peu ces non-acteurs dans un lieu et de les faire évoluer. C'est sûr qu'il y a une ligne directive, puis il y a des scènes qui se trouvent là, que c'est le réalisateur qui les a placées, mais il y a des moments individuels à travers les scènes que tu as l'impression que ça pouvait juste être sur le moment, que ça a été capté. Donc ça, je trouve ça très bien. Le film, c'est vraiment une comédie à l'humour bon enfant, ça, avec une trame sonore hip-hop vraiment géniale, composée en grande partie de Young MC, avec aussi du Run DMC et du Boards of Canada. Donc ça fait vraiment, je sais pas si tu te rappelles un peu des émissions des années fin 80, début 90, avec le fluo, les rappeurs, puis...
Ouais, je vois ce genre de truc. Mais je trouve ça surprenant, en fait, comment t'en parles, parce que ça a l'air d'un truc vraiment réaliste, alors que Gondry, normalement, c'est les effets spéciaux tactiles et tout ce genre de trucs.
Ben, je suis content que tu apportes ce point-là parce que c'est justement ce qui différencie ce projet-là de peut-être un espèce de faux documentaire. C'est qu'il y a vraiment la touche Gondry qui est. C'est sûr que, bon, Gondry, c'est quelqu'un qui divise, puis il y en a qui vont peut-être, parce qu'il vient du milieu du vidéoclip, son film le plus connu, c'est Eternal Sunshine of a Spotless Mind, et puis il y en a qui trouvent qu'il y a peut-être une recette Gondry, une formule, et puis que c'est juste comme je fais des petits effets spéciaux qui font un peu cheap, tout ça. C'est du bricolage, finalement. C'est vraiment le bricolage Gondry, l'origami, on fait du stop motion, tout ça. Et puis, oui, c'est sa marque de commerce, mais il fait pas juste ça. Et puis, pour moi, c'est comme un enfant qui fait du cinéma, tu sais, avec les moyens qu'il peut, et puis toute l'imagination que possède un enfant. Et puis, justement, là-dedans, un exemple, des fois, il y a beaucoup de scènes au téléphone, parce que, bon, c'est sur la jeunesse d'aujourd'hui, tout le monde a des téléphones. Et quand on est, le bus s'arrête parce qu'il y a un accident, et puis il y a des jeunes qui vont chercher des points de pizza. Puis l'autre, il téléphone, fait comme ah, « OK, vite, le bus va partir. » Puis là, il y a une mise en scène un peu surréaliste que le bus est dans le stand de pizza et dans le restaurant. Donc, il y a un plan que tu vois à travers la vitre. Derrière, c'est la pizzeria avec les jeunes qui parlent au téléphone à leurs amis qui sont en avant-plan, en fait, dans le même plan. Donc, il y a plein de petites trouvailles comme ça, vraiment intéressantes. Le film aussi est divisé en trois actes. Et puis, tous les actes sont annoncés, mais c'est pas un intertitre ou un titre superposé. C'est vraiment intégré au décor. Donc, à un moment donné, c'est une réflexion dans le bus d'un néon qui fait part two de Chaos. Donc, il y a plein de petites trouvailles comme ça qui rappellent vraiment la touche Gondry. Et puis, c'est un film qui t'as vraiment l'impression que c'est un film là, fait avec le cœur. T'sais. Puis, ça rappelle, c'est ça, l'esprit bon enfant. Hip-hop gentil, genre style Will Smith qui fait du hip-hop là.
C'est un projet qu'il avait tourné sur longtemps, je pense, qu'il avait fait de façon très personnelle, pas beaucoup de budget, pas beaucoup de contact avec les studios ou quoi que ce soit.
Ouais, ça a l'air vraiment d'un projet. Je sais pas à quel point ça y a pris du temps parce que ça a l'air quand même d'un film relativement minimaliste. Je me dis, tu sais, il y a à peu près une trentaine de jeunes dans un bus, tu mets 3-4 caméras, puis tu tournes jour après jour, ça doit pas être si pire, mais effectivement, niveau production, tout ça, c'est très, très de base, là. Donc, The Windy Eye, moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est ouais, c'est un bon petit film unique, comme seul Michel Gondry, je pense, pourrait nous le proposer. Toi, Olivier, d'autres films?
D'autres films. Aujourd'hui, j'ai vu Le Magasin des Suicides de Patrice Lecomte, qui est
Oui, un film d'animation.
la première fois qu'il fait un film d'animation, à ce que je cherche, qui va ressembler un peu, dans cette animation, ça va ressembler un peu à ce que Sylvain Chomet ferait pour le goût pour la caricature, mais en même temps, ça se démarque quand même, la ligne est plus claire et compagnie. Et c'est un musical aussi, en fait, les gens chantent. Et c'est un. Ben, en fait, c'est un film qui est très drôle. Par sa non-retenue de ridiculiser un sujet qui n'a pas à être ridiculisé, en fait. Si vous voulez vous moquer des gens qui trouvent que la vie est terrible et qui veulent se suicider, c'est le film pour. Le seul petit bémol que j'aurais à dire, c'est qu'en dernier tiers, on dirait que le film revient un peu sur son idée et faut que tout s'arrange et que tous les gens redeviennent heureux. Mais sinon, ben, c'est vraiment un film amusant qui donne rien de plus. C'est un film très court qui passe très rapidement, mais c'est super sympathique.
Donc, un film avec un happy end qui est une comédie musicale qui s'appelle Le magasin des suicides.
Ouais. Le magasin des suicides, en fait, qui est un magasin où on vend des articles pour se suicider et où on ne dit pas au revoir, on dit adieu parce qu'on ne revoit jamais nos clients.
Et puis, est-ce qu'il y a une garantie sur les produits?
Oui, en fait, ils disent que si vous êtes encore vivant, ben vous pouvez venir et ils vont vous le rembourser.
Bon, mais c'est génial.
Oui, et il y a beaucoup de scènes de suicide.
Et est-ce que c'est comment l'approche par rapport à la violence? Est-ce que c'est vraiment cartoonesque ou est-ce que c'est plus gore?
Non, c'est vraiment cartoonesque. Il n'y a pas d'effet. On va voir. Je pense que le pire, c'est un mec qui se tire dans la tête, mais je veux dire, je pense qu'on le voit même pas. En fait, on va juste voir le sang et compagnie.
Et donc, à qui s'adresse ce film?
Pas des enfants, parce que le sujet est quand même trop sérieux. Ben, le sujet est quand même trop lourd et c'est un humour assez cynique, fait que faut quand même apprécier, c'est très français aussi, faut quand même apprécier un certain humour français très cynique et relativement méchant pour pouvoir apprécier le film.
Ah, mais ça a l'air sympathique. On va changer, on va prendre un film qu'on a vu tous les deux. Film d'ouverture cette année au Festival de films de Toronto, c'est Looper de Rian Johnson qui nous avait donné Brick et The Brothers Bloom. Ou The Brother Bloom. En tout cas, bref, The Bloom Brothers, quelque chose comme ça. Les frères Bloom, bref.
Les frères Bloom.
Donc, Looper, film de science-fiction avec Joseph Gordon-Levitt qui imite, à l'aide de prosthétiques, Bruce Willis.
Qui a l'air un peu idiot, ce faisant, en fait. Les prosthétiques, je pense, lui cachent une bonne partie du visage et on dirait qu'il n'a pas le charme qu'il a à l'habitude.
C'est ça, c'est comme une espèce de, c'est comme une espèce de mix vraiment entre, ben je veux dire, c'est Joseph Gordon-Levitt qui, il a eu des, un peu des bouts de latex ou je sais pas exactement quand ils ont fait, appliqué sur le visage pour un peu avoir la silhouette du nez de Bruce Willis, puis de ses pommettes, puis ça, un peu une mâchoire plus carrée, mais c'est assez étrange. Moi j'ai trouvé que c'était très inconstant durant le film, ça m'a vraiment dérangé en fait.
Moi aussi, ça m'a vraiment dérangé. Puis malgré tout, la scène où le changement entre Joseph et Bruce Willis se fait, il y a quand même un choc qui fait il se ressemble pas tant que ça, puis ça se fait d'un coup.
Oui, c'est ça, tu parles d'une scène, en fait, c'est un montage où est-ce qu'on voit comme les années qui passent, et puis tout d'un coup, d'une année à l'autre, c'est rendu Bruce Willis avec des cheveux longs.
Ah, c'est exactement ça, puis ça fait rire plus qu'autre chose, en fait. Ben, ça fait rire, ça donne un choc qui peut être drôle, mais disons.
Mais d'ailleurs, le film, en fait, c'est ça. C'est un film de science-fiction qui emprunte beaucoup au film noir, qui est très comique. Ça fait très Dick Tracy, rencontre un peu Blade Runner, j'ai l'impression, avec des bon une histoire à sauce de voyage à travers le temps. Je trouvais que c'est un film qui mixe les genres, mais qui est surtout fait par un réalisateur qui est passionné par les genres. C'est un cinéaste cinéphile, finalement, qui multiplie les références et puis qui, j'ai l'impression qu'il y a un sujet qui peut tomber un peu dans le ridicule, puis je pense qu'il en est conscient, puis qu'il essaie justement de ne pas trop se prendre au sérieux.
Ouais, ben c'est pas la première fois non plus qu'il fait un mélange des genres. Tu parlais de Brick tout à l'heure, c'est un peu le même principe, sauf que là, il adaptait le film d'école, il en faisait un film noir, là, c'est de la science-fiction qui devient un film noir, comme Blade Runner a déjà fait, sauf que c'est, je pense, c'est une approche peut-être un peu plus directe, on monte les codes, comme tu dis, pour faire un cinéma cinéphile. Pour moi, ça marche pas toujours. Pas parce que c'est ridicule, je pense que, comme tu disais, il assume le fait que parfois c'est drôle, mais parce que le rythme en soi est pas soutenu, à mon sens, et ça finit que je trouve que ça marchait plus.
Je pense aussi que le mélange des genres est pas tout à fait homogène, dans le sens que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des ruptures de ton dans le film, qui me fait un peu évoquer Sunshine de Danny Boyle, pour ceux qui l'ont vu. Il y a comme vraiment une très grosse rupture de ton dans ce film-là, c'est peut-être pas à ce point, mais il y a comme vraiment à un moment donné des éléments de quasiment fantaisistes là, qui embarquent dans le film, et puis c'est un peu étrange, on passe d'une espèce de science-fiction plus ou moins sérieuse à des fois des scènes vraiment d'action là, nanaresque, là, un peu à la Rambo et tout ça, et puis je suis pas sûr à quel point que l'univers créé est cohérent et homogène.
On dirait qu'en fait, il établit ces éléments fantastiques-là, il les établit juste pour se sortir du trouble, en fait, pour régler tout son scénario, pour que tout finisse par s'arranger par soi-même, parce qu'il n'y a rien d'autre pour que les choses s'arrangent. Je trouvais que ça donnait l'impression de fabriquer cette partie-là.
Puis c'est quand même étrange quand tu sais le propos du film, c'est à propos de. Je sais pas, il y a quelque chose à propos de la plasticité de ce film-là qui, je trouve, marche pas nécessairement avec... parce que, bon, le film, c'est comme un peu, tu sais, le retour sur le passé, est-ce qu'on choisit notre vie, est-ce qu'on doit se cacher, se camoufler, l'acteur est camouflé sous des tonnes de prothèses puis de make-up un peu mal fait. Donc, il y a de quoi d'étrange dans ce mélange-là. Ceci dit, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes vraiment bien. Puis le film, il y a des longueurs, mais quand il y a des scènes d'action, ça marche bien. Il y a quelques beaux moments d'acteur aussi, mais bon, pas tant que ça non plus. Mais j'ai pas été déçu. Je crois surtout que c'est qu'il y a tellement peu de films de science-fiction qui sortent que quand il y en a un qui sort, je le prends quand même avec un peu la fin de celui qui est pas nourri souvent.
Je pense que le mec a quand même un certain talent pour la mise en scène. Ça paraît surtout dans les scènes où que ça bouge, je peux dire. Ou même comment il établit son principe en fait de voyage dans le temps. Pas d'effets spéciaux, c'est vraiment la personne qui apparaît d'un coup. Mais ça fait des belles ruptures de ton, des beaux chocs en fait dans la narration que j'ai trouvé sympathique.
Donc, un constat un peu mitigé pour Looper. Certainement pas le film d'ouverture le plus génial qu'on a vu, mais après FFM et son Million Dollar Crocodile, on va le prendre avec.
C'est meilleur que Hockey de Musical.
Score the. C'était quoi? Score the Hockey Musical.
Ouais,
ça a été assez historique. Un film qu'on a vraiment apprécié tous les deux, je pense. Une semi-surprise pour toi, puis moi j'attendais beaucoup. C'est Motorway. Ce film cantonais de. Ah, j'ai oublié son nom, mais c'est produit par Johnny To, ce producteur et réalisateur infatigable à la barre de Milky Way Production. Donc, en gros, Motorway, c'est tout simplement le Fast and Furious cantonais.
Pas une semi-surprise, une surprise complète parce que je m'attendais à rien. C'est toi qui m'as amené et c'est beaucoup plus que le Fast and Furious cantonais. C'est le Drive cantonais en meilleur.
Ouais, ce film-là, c'est vraiment. À côté de ça, en fait, c'est ça comme on disait, à côté de ça, Fast and Furious, ça a l'air d'un film de Woody Allen.
Ouais, bah, carrément. Je veux dire, ben, Fast and Furious, ça a l'air de rien comparément à ça, parce que ce film-là est fait pour le plaisir. C'est un film qui se regarde avec plaisir. C'est pas un film très sérieux ou quoi que ce soit, sauf que c'est fait avec beaucoup plus d'intelligence que n'importe quel Fast and Furious.
Puis, tu sais, un des trucs qui est vieux comme le monde dans le cinéma, c'est d'avoir un love interest, d'avoir une femme sexy, mais là-dedans, le vrai love interest, c'est la carrosserie des voitures.
Ah, c'est les voitures qu'on voit. Il y a même des scènes d'amour avec les
Non, mais
voitures.
carrément, le protagoniste qui arrive, qui caresse le dos de la voiture, t'as le beauty shot, le close-up de la voiture, tu vois les courbes, c'est vraiment eux qui ont le spotlight.
Ce que tu disais quand on est sorti du film aussi, que des fois on voit des objets du moteur ou quoi que ce soit qui s'activent et tout, et que moi qui connais rien aux voitures, j'y comprends que dalle, mais on voit que les types qui ont fait ça aimaient beaucoup leur voiture.
Ben c'est ça, ils réussissent à nous transmettre la passion finalement, parce que c'est quoi le cinéma? C'est filmer un objet de désir. Et puis ce film-là le fait vraiment avec brio. Et puis même si c'est un film d'une heure et demie qui est très très. C'est pas un film prétentieux, il sait ce que c'est. C'est tout simplement un bon film d'action, on passe un bon 90 minutes. Une histoire de policier banal avec vol de voiture et policier à la limite de la légalité. Et puis il y a aussi une espèce de. Semi-histoire parallèle avec le chef de police, un peu qui devient le mentor du jeune, qui est pas capable de garder sa passion des voitures, puis qu'il faut tout le temps qu'il aille plus vite.
Ouais, où il va avoir des beaux moments où il va fermer les yeux et penser à ce que son mentor lui a dit pendant qu'il conduit, puis il va conduire sans regarder. Mais tout de même, si c'est un film qui se prend pas au sérieux, il y a quand même plusieurs idées de réalisation. Chaque poursuite de voiture est tournée de façon différente. Il y en a qui sont tournées en temps réel avec des tracking shots, tandis qu'il y en a une autre qui va être tournée avec plein de ralentis par moment. Et ça fait qu'il est capable de différencier ces différentes scènes d'action. C'est un pléonasme, mais bon. Mais ce qui fait que l'intérêt est constant.
Puis il y a aussi tout un jeu du chat et de la souris qui s'amusent dans le film. Parfois, c'est quasiment un thriller qu'on regarde avec dans le parking. C'est très bien aussi. Parce que le cinéma, c'est des images et du son. Et puis, c'est rare qu'un film utilise à ce point le son, toutes les ressources. Parce que beaucoup du film qui se passe dans le noir, dans les parkings, les lumières fermées des voitures. Et puis, les différents protagonistes écoutent, en fait, et essaient d'entendre l'autre bouger, finalement.
Ben, il aime aussi les sons de sa voiture. Hein. Il est en amour avec aussi. J'ai rien à rajouter à ça.
Ah, c'est vraiment de la pornographie pour les amateurs de chars. Donc, Motorway, on a hâte que ça sorte en DVD pour le réécouter. Ça va sûrement être au prochain Fantasia. Un excellent film de genre. On a vu aussi le favori, ben, ce qui serait, je n'ai pas vu encore les résultats de Venise, je ne sais pas quand ça va sortir, mais Pieta de Kim Ki-duk, son 18e film, qui serait le favori pour le Lion d'Or, qui nous a laissé un peu sur notre faim.
Oui, en fait, ben moi, c'est le premier film de Kim Ki-duk que j'ai vu.
Shame on you.
Ouais, Shame on Me, parce que je connais pas beaucoup le cinéma asiatique, malheureusement. Et ben, ça me donne pas une bonne impression de départ, quoique je suis un peu pantois dans le sens qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu, j'ai l'impression.
Mais d'ailleurs, pour un néophyte, peut-être que tu peux m'éclairer avec ton regard neuf, finalement. Qu'est-ce que tu as l'impression que c'est pour toi, le cinéma de Kim Ki-duk?
Ben, moi, j'ai juste vu des gens souffrir pendant 1h40. Je parlais de l'heure, l'heure au début, ça m'a fait un peu penser au même truc. Dans le sens que c'est un mec qui va torturer relativement, psychologiquement et physiquement, un certain nombre de personnes avant lui-même de se faire torturer par la vie, si on peut dire. Puis je vois pas de sens à tout ça, sauf de moi, en tant que spectateur, vivre quelque chose de désagréable, en fait.
Et ouais, est-ce que il y a quelque chose quand même qui est fascinant chez Kim Ki-duk, je pense, c'est que c'est un cinéaste qui filme la laideur, il filme la noirceur, et puis le film il est quand même laid, mais je dis pas ça péjorativement nécessairement, parce que c'est un film qui est cru, c'est un film c'est un film qui ose quand même regarder. Kim Ki-duk pourrait être comparé un peu au Gaspard Noé coréen, dans le sens qu'il va explorer vraiment les recoins sombres de l'humanité.
Ça va pas bien, j'aime vraiment pas Gaspard Noé, en fait. Donc, moi j'ai trouvé ça laid, mais pas positivement, c'est ça le problème.
Faut quand même dire que avec ses acteurs, il fait un travail assez fabuleux. Là. Je veux dire, l'actrice principale qui incarne la mère, ben en fait, il y a comme deux acteurs principaux, un fils et sa mère, qui ont une relation vraiment, mais vraiment pas ordinaire et troublée. Ces acteurs, bon, le fils est correct sans plus, mais la mère est quand même très très bonne.
Je pense qu'il sait, bah, effectivement, il sait mettre en scène sa laideur aussi, parce qu'il y a des scènes qui restent relativement choquantes. Malgré que finalement, il n'en montre pas tant que ça. C'est pas un Takashi Miike non plus dans ses pires moments.
Mais non, c'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que le cinéma de Kim Ki-duk, c'est vraiment un cinéma de non-dit. D'ailleurs, il est très connu pour ses personnages muets ou personnages qui parlent très peu. Dans ce film-là, c'est un peu ça encore une fois. Moi, ce que je trouvais dommage, c'est que, étant moi-même un très grand fan de Kim Ki-duk, j'ai l'impression que c'est pas un cinéaste qui est dans une phase de sa carrière où il évolue en tant que cinéaste. J'avais vraiment l'impression que son film. Printemps, été, automne, hiver et printemps. C'était finalement l'aboutissement de ce qu'il avait fait pendant les 10 premières années de sa carrière. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai l'impression qu'il régresse, en fait, qu'il revient à ses thèmes chers. Puis, bon, sauf Arirang, cette espèce d'ovni de l'an passé, qui est une espèce de documentaire autobiographique, vraiment un film fait par un seul homme, Kim Ki-duk lui-même. Sauf cet ovni-là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien vraiment dans son cinéma des dernières années qui est très très nouveau finalement. J'ai l'impression est-ce qu'il a fait le tour déjà de ce qu'il avait à dire? Il faut dire qu'il est très productif, fait environ un film par année depuis 20 ans.
Son 18e. C'est son 18e film, c'est inscrit dès le début.
Ouais, ça, puis non, je sais pas, j'ai pas nécessairement détesté Pieta, mais ça me laissait sur ma faim un peu. Et puis, si ce n'était que je savais que c'était Kim Ki-duk qui l'avait réalisé, je suis pas sûr que j'aurais été aussi patient avec le film.
Ouais, bah, c'est une déception pour toi. Moi, c'est juste une mauvaise expérience, mais je pense que c'est un réalisateur. Je pense que j'ai vu assez au moins de talent dans la mise en scène pour me dire que le mec a peut-être des choses plus intéressantes à dire dans d'autres films, ou que j'ai raté quelque chose dans ce film-là. C'est ce qu'on va peut-être voir avec les résultats de Venise, enfin.
Ben, c'est ça en fait le piège, c'est que là, ça va être en différé, et puis si ça se trouve, lorsqu'on va mettre l'épisode en ligne, il aura gagné le Lion d'Or et on passera pour des abrutis. Eh bien, soit, nous aimons le risque à point de vue. Un autre film que tu veux parler, Olivier?
J'ai vu Sightseers de Ben Wheatley aujourd'hui. Ben Wheatley qui a fait Kill List dernièrement aussi. Je ne sais pas si c'est sorti au Québec, Kill List, par contre. On va pour le nom. Mais en tout cas, qui est un réalisateur reconnu pour faire des trucs un peu provocateurs. C'est un espèce de natural born killer à l'anglaise. En fait, c'est deux personnes qui font un petit voyage et qui tuent des gens au passage. Sauf que. Ben, Natural Born Killer aussi est un peu dans ce ton-là. On est vraiment dans une comédie, si on peut dire. Ils vont se promener, ils vont se fâcher, ils vont tuer quelqu'un juste parce qu'ils aiment le chien d'une autre personne, ou ils sont fâchés l'un contre l'autre puis ils veulent se défouler sur quelqu'un. C'est un film qui parfois était très drôle, mais qui est vraiment, vraiment vulgaire dans les pires sens du terme, mais qui veut provoquer que pour provoquer. Fait que c'est le genre de film à voir avec ses amis sensibles et se moquer de la gueule qu'ils ont quand ils sont choqués d'un truc.
Mais c'est un peu une vague, ça, non? Les films un peu d'action vulgaire, comique, british des dernières années.
Ouais, mais comparément, il y a Seven Psychopaths qui va jouer bientôt, qui avait été fait par le type qui avait fait In Bruges, qui est un excellent film dans le genre, qui était relativement plus fin. Là, c'est vraiment, ils vont prendre leur voiture, rentrer dans quelqu'un, la tête va se frapper sur le char, va comme exploser en morceaux avec les gros effets sonores. Puis après, tu vas avoir des gags ironiques à la British qui feraient peut-être penser au Monty Python, mais la violence a quelque chose de réaliste, en fait, contrairement, mettons, au Monty Python, quand il y avait des choses violentes dans leur cinéma. Ce qui fait que ça a un aspect provocateur, c'est un aspect, le réalisateur se prend plus intelligent que les gens qui seront choqués, allez vous faire foutre. Mais ça peut amuser. Je me suis amusé, c'est ça le problème, en fait.
Ah, génial. Et puis les performances globalement dans le film, c'est bien ou...
Ouais, ben, ils ont un certain talent pour la comédie, puis pour avoir l'air de des fous, littéralement, des gens que tu rencontres, puis qui font peur, mais que tu comprends pas pourquoi ils te font peur, en fait, parce qu'ils ont l'air un peu dératés en même temps, mais avec un discours un peu dérangé. Donc, les performances étaient pas mal.
Donc un film où on s'amuse.
Bon, on s'amuse relativement, je pense que c'est pas un bon film, en fait, ou quoi que ce soit. Moi, je me suis amusé par la connerie du truc, peut-être un peu par l'orgueil du réalisateur, mais c'est tout.
C'est drôle parce que qu'est-ce que tu m'écris depuis tantôt, ça fait penser à du Takashi Miike, ça.
Ouais, je suis pas le plus grand connaisseur de Takashi Miike. Ça pourrait ressembler à certains gags dans ces derniers films que j'ai vus. Je pense que si on voit un film comme Audition, par contre, il y a quand même peut-être un peu plus dans ce film-là qu'il y en a dans le film de Ben Wheatley que j'ai vu.
Takashi Miike, c'est aussi une centaine de films, donc c'est pas tous des auditions. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ben, je vais rebondir sur ton film britannique pour te parler de Pusher. Ce deuxième remake en 3 ans du film de Nicholas Winding Refn de 95, si je ne m'abuse, ou 96, que je n'ai pas vu malheureusement, je suis un très mauvais cinéphile. Mais ce remake donc de Pusher, je suis pas sûr si c'est celle-là qui est passée à Fantasia d'ailleurs, il y a 2 mois, je ne l'ai pas vu. Celui qui est passé à Fantasia, parce qu'il y a une version de 2010, une version de 2012, donc celle-là que j'ai vue, c'est celle de 2012 qui a joué ici à Toronto. Remake inspiré, énergique, c'est un film très, très divertissant, très pop, c'est un peu un mélange de Trainspotting et de Crank, donc une espèce de film que tu t'ennuies pas pantoute, qui dure 1h25, qui te laisse pas vraiment respirer. L'acteur principal est très solide, il croit en son sujet, il donne tout ce qu'il a. Puis c'est ça, en gros, Pusher, c'est l'histoire d'un dealer qui se fait crosser une fois, puis qui a une semaine pour essayer de comme rembourser ceux à qui il doit de l'argent. Donc, histoire un peu plus classique, mais traitée quand même avec assez d'énergie et de souffle pour justifier un peu ce remake.
C'est un remake américain, anglais?
Non, non, c'est anglais d'Angleterre, là. Avec les gros accents, un peu. Bon, je me connais pas en accent, là, mais des trucs comme un bollocks.
Des accents typés. C'est le premier film seulement qui est en remake. Est-ce que tu sais s'ils vont faire les autres ou...
Je sais pas, parce que c'est sûr que c'est une trilogie à la base, la trilogie Pusher, qui est... D'ailleurs, ce remake a été produit, entre autres, par Nicholas Winding Refn lui-même. Bon, si ça se trouve, il a juste donné son nom pour libérer les droits, pour collecter de l'argent. Mais il joue quand même un petit rôle dans le film, un caméo, donc j'imagine qu'il était quand même très favorable au projet. J'imagine que ça va aussi dépendre des recettes du film en terre d'origine et puis s'il arrive à se vendre dans d'autres pays. Je connais pas une compagnie qui refuserait d'avoir une franchise sous les mains quand que le travail est déjà fait. Mais non, c'est ça, Pusher, ça coûte très bien et puis sans nécessairement laisser de souvenirs impérissables, mais... Si vous avez 1h30 à tuer, je pense qu'il y a des pires moyens de le faire que d'écouter ce petit film d'action. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? C'est pas mal tout, hein?
Tout dit. Moi, j'ai vu The Perks of Being a Wallflower aujourd'hui, en fait, qui est. Je suis incapable de prononcer le nom du réalisateur, mais qui est le film. Le premier film post-Harry Potter où qu'elle tient un rôle principal d'Emma Watson, en fait, qui n'est pas My Week with Marilyn, mais je pense qu'Harry Potter, c'était même pas fini. Non, c'était fini. J'ai rien dit. C'est ça, qui est une. Qui a le look typique d'une petite comédie indépendante traitant de l'adolescence, qui est franchement banal au final. Il y a très peu de choses qui démarquent ce film, sauf un certain désir de prendre des personnages qui ont vécu des troubles. Il y a beaucoup de viols, beaucoup de violences parentales dans leur passé, sauf que c'est évoqué sommairement tout au long du film de façon plutôt boiteuse jusque dans les 20 dernières minutes du film où ça prend où ça prend le dessus sur tout et que ça devient vraiment manipulateur, hypocrite, dans le sens qu'on essaie de vraiment affecter le spectateur, de le faire pleurer de tous les moyens possibles. Donc, c'est pas un très bon film, hormis quelques petites scènes qui sont senties, et le trio d'acteurs, en fait, avec Emma Watson, Ezra Miller, et j'ai oublié le nom de l'autre type, mais est relativement charmant, donc ça marche dans quelques scènes. D'ailleurs, certaines scènes où ils font de Rocker Horror Picture Show, en fait. Donc, si vous voulez voir Emma Watson faire le Rocker Horror Picture Show, c'est le film pour le voir.
Depuis le temps que j'attendais ça.
Ben oui, depuis le temps qu'on attendait ça, nous, tous les mecs. Mais Ezra Miller est pas mal pour les filles, à ce qui paraît. Moi, c'est pas mon type, mais bon. Fait que c'est ça.
D'accord, et moi, rapidement, je vais finir un film dont je sors à peine. The Land of Hope de Sion Sono, qui était sûrement mon film le plus attendu du festival, bon, avec The Master de Paul Thomas Anderson, mais The Land of Hope, ce film de Sion Sono. Très très bon film, pas au niveau de ses meilleurs, qui selon moi reste Imizu et Love Exposure. J'ai pas encore vu toute sa filmographie. Mais Sion Sono, donc cinéaste japonais qui a commencé vraiment dans les films d'exploitation, dans les films d'horreur, et puis qui petit à petit vraiment gagne ses lettres de noblesse, puis qui est devenu l'un des plus grands réalisateurs japonais, l'un des plus connus également. Son dernier film, Imizu, qui n'est pas encore sorti à Montréal, malheureusement, ça a été vraiment une déception qu'il soit ni au FNC l'année passée, ni à Fantasia cette année. Va peut-être être au FNC cette année, je ne sais pas trop, mais Imizu, qui a été pour moi mon second film préféré de 2011, une grosse, grosse claque dans la gueule, un film qui avait commencé à tourner avant les événements du 11 mars au Japon, donc le tremblement de terre et tout ce qui s'en suivit, tsunami et problématique avec les centrales nucléaires finalement, parce qu'il y avait deux centrales nucléaires de toucher. Et puis, donc, il a interrompu le tournage pour se rendre sur place, pour déjà aider les gens, faire un peu du travail humanitaire, et puis tourner aussi pour vraiment comme avoir une trace de cet événement. Ça l'a profondément bouleversé, comme on peut l'imaginer, tous les Japonais. Et donc, Imizu a été remanié finalement en cours de route, qui est d'ailleurs une adaptation d'un manga, mais qui l'a un peu refait suite aux événements, qui a été vraiment un film dur, cru et qui venait du cœur, un véritable cri animal qui m'avait profondément marqué. Et puis, The Land of Hope est comme le second volet de ce qui est annoncé comme une trilogie sur les événements post-11 mars. Et alors que le premier film se voulait vraiment comme l'épicentre du problème et la catastrophe en tant que telle, celui-ci, assez symboliquement, situe son action aux limites d'une zone de 20 km alentour de l'épicentre, qui serait la zone touchée par les radiations nucléaires. Donc, c'est un film, du coup, qui est beaucoup plus calme. En fait, l'événement en tant que tel passe très vite dans le film. C'est à peine un petit tremblement de terre pour ceux qui se situent à 20 km. Et puis, ils se demandent un peu qu'est-ce qui s'est passé. Bon, le courant est coupé, mais il n'y a pas vraiment de casse. Il y a quelques meubles de renversés, quelques verres et assiettes de brisées. Mais ça va pas plus loin que ça. Et puis finalement, c'est vraiment plus les conséquences, de bureaucratie qui s'en suivent, qui vont être désastreuses, dans le sens que c'est une petite famille dans une ferme, finalement. Une famille, bon, assez tendue, les voisins, il y a plusieurs personnages dans le film. Et puis un jour, quelques semaines après le tremblement de terre, le gouvernement vient installer en fait un cordon de sécurité qui délimite le 20 km, qui se situe au milieu de la ferme. Donc la moitié de la famille doit évacuer, puis l'autre moitié doivent rester, ben, ils peuvent rester sur place. Puis comme ils ont vécu là toute leur vie, ils ne veulent pas quitter, ils ont des vaches à s'occuper. La femme du personnage principal souffre d'Alzheimer, ce couple âgé, donc il doit s'en occuper, ils ne peuvent pas vraiment partir. Et puis, il y a vraiment des moments très, très forts et marquants, comme cette scène d'engueulade lorsqu'ils viennent installer le cordon et puis qu'ils disent « Mais ici, on est correct. C'est quoi le rapport? Les radiations vont s'arrêter soudainement. » Donc, c'est un film qui est moins lourd que ce que son sujet pourrait laisser croire. On voit que le cinéaste a eu plus le recul pour ce film-là que pour Imizu, son film précédent. Et du coup, The Land of Hope, c'est un film qui est rempli d'espoir. Et puis, il y a ces deux enfants, en fait, qui sont perdus parce que ça s'est passé en mars. Et puis, c'est dans le nord du Japon, donc il y avait un peu de neige à cet endroit-là. Ces deux enfants qui marchent dans la neige et puis qui recherchent tout simplement leur disque des Beatles qu'ils ont perdu dans le tremblement de terre, dans le tsunami, qui semble abandonné de leurs parents, ou du moins il y a eu une confusion, et puis les deux enfants sont là à errer et puis à chercher leur disque des Beatles, qui ont subi un choc traumatique. Et puis ils montrent à des adultes que dorénavant, tous les Japonais doivent marcher un pas à la fois. Puis à chaque fois qu'ils marchent, ils font hippo, hippo, qui veut dire un pas, un pas. Donc, c'est un peu ça que le message le message du film véhicule, c'est que le Japon doit marcher un pas à la fois. Et c'est un film vraiment très, très sobre et très, très humble, justement pour un cinéaste de Sion Sono. Et pour moi, ça évoque un peu le printemps, été, automne, hiver, printemps de Kim Ki-duk, qui était un film sans violence, ce qui était la plus grosse surprise à l'époque de ce film. Et qui évoque aussi Rhapsody in August de Kurosawa, donc pour un peu le propos et le contexte du film. C'est pas un film qui est sans longueur, puis c'est pas toutes les scènes qui sont aussi fortes que certaines scènes clés du film, mais c'est un film vraiment qui marque et puis qui est long, qui dure 2h20, qui est lent, mais que ça prend cette longueur et cette lenteur pour vraiment apprécier les scènes finales du film. Vraiment un film que je recommande, qui est très très émouvant, évidemment par son sujet, mais aussi par la douceur avec laquelle c'est traité. Je ne sais pas si toi, Boubou, tu es familier un peu avec le cinéma de Sion Sono.
Attends, est-ce que c'est Suicide Club?
Ouais, c'est ouais, ça.
J'ai vu Suicide Club, j'ai vu Guilty of Romance qui vient de sortir à Montréal. En fait, qui est son nouveau ou...
En fait, il est très prolifique. Là. Guilty of Romance, je crois, c'est 2010. Okay. La même année que Cold Fish, 2011, c'est Imizu, et 2012, c'est The Land of Hope.
OK, d'accord. Ce que je trouve particulier, en fait, c'est de la façon dont on parle, on dirait qu'il n'y a pas les influences du cinéma d'exploitation qu'il faisait plus tôt, au début de sa carrière, si on peut dire. En
fait. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je pense vraiment que les attentats. Les événements, pardon, je suis fatigué là. Les événements du 11 mars, je pense vraiment que ça l'a bouleversé, puis que ça va peut-être qu'avec le recul, on va se rendre compte que c'est vraiment là la scission dans la carrière de Sion Sono.
On est tous fatigués au passage, Paul. Mais ce que je trouve particulier, c'est justement, j'ai vu Guilty of Romance qui est sorti il y a 2 ans, si tu dis, au Japon, dans le fond. Et c'est un film qui était fortement influencé. C'était pas un film d'exploitation, mais où que les influences étaient claires, où qu'on sentait le style cinéma d'horreur vraiment trash, avec le sexe et la violence de façon très exagérée, de façon très provocatrice. Alors ça me surprend de la façon dont on parle, que ce soit un film lent, ce soit un film qui a des belles scènes simples, comme t'en parles, en fait. Donc je suis surpris.
Ouais, non, c'est ça. Le film est plus proche d'un Ozu que d'un Mickey. Donc, en ce sens, c'est une très grande surprise, finalement.
Je vais essayer de le voir.
Donc, ça va conclure notre première émission sur le TIFF. Merci beaucoup, Olivier Bouchard. On peut te lire sur lesfichesducinema.com. Est-ce que c'est les fiches ou juste fiches du cinéma?
Fichesducinema.com, en fait. Puis pas sur Cinématrack. Je travaille pas pour Cinématrack, pour le TIFF.
Ah, okay. Donc, voilà. Alors, on peut te suivre sur fichesducinema.com ainsi que sur Twitter / Boubou Bouchard. Donc, B-O-O-B-O-O Bouchard. Donc, on peut te suivre là. Pour ma part, j'ai mon Twitter, c'est sur at point de vue avec un S. Et vous pouvez suivre, évidemment, vous pouvez nous aimer sur la page de point de vue. Mon nom est Paul Landriot et j'étais avec mon invité,
Olivier Bouchard.
Merci, bonne semaine.